Silence s'il vous plaît dans la bibliothèque.
Lire, c'est queer, avec Brian Saint-Louis.
Allô Brian, qu'on rejoint à Québec, comment vas-tu?
Bonjour Denis Martin, ça va très bien, toi?
Oui, ça va très bien, ça va très bien. Alors, on va parler de deux titres aujourd'hui qui sont pas nécessairement reliés, là, mais qui sont intéressants. Commençons donc par « Désirer autrement ».
Oui, ben c'est ça, deux livres aujourd'hui très différents, un roman, un essai, puis deux livres qui nous amènent complètement ailleurs. Non, il n'y a pas de lien. « Désirer autrement », c'est un livre, un essai du psychanalyste et sexothérapeute français Alain Héril, qui a décidé de se pencher sur la sexualité ou les sexualités. Oui, c'est ce qu'on va apprendre.
On dit
dans les
sexualité, c'est ça, là?
Quelqu'un qui est asexuel, oui. Ben là, il y a différentes formes de sexualité. C'est
oh,
ça qu'on va apprendre dans ce livre-là.
Ouais.
La sexualité, ben, c'est une des lettres qu'on retrouve dans notre grand sigle LGBTQIA. Plus le A, c'est pour asexualité. Moi, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus de sexualité en général. On retrouve ça dans des séries, dans des livres. Ceux qui étaient avec nous le mois passé, je vous avais parlé de Heartstopper 5, la nouvelle bande dessinée qui venait de sortir.
Je t'interromps, j'ai reçu un exemplaire du livre, je pense qu'ils ont écouté, et j'ai reçu un cadeau des éditions Urtubise. J'ai trouvé ça très, très gentil, puis je voulais le souligner, parce que j'ai l'impression qu'ils doivent nous écouter, alors je voulais le souligner, là, de les remercier pour ça.
Bon, ben, il va être content qu'on reglisse un petit mot sur eux. Il y avait un personnage qui faisait son coming out asexuel dans ce livre-là, justement. Et c'est pas le même personnage que dans la série télé, donc raison de plus de s'adonner aussi à la lecture de la bande dessinée. Voilà. Mais en dehors de la fiction, j'ai l'impression qu'on en parle un peu. Moi, j'ai déjà eu des conversations avec des amis au sujet de la sexualité. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est encore tabou, compliqué. Il y a beaucoup de gens qui, on dirait, comprennent pas encore que la sexualité, ça puisse exister, qu'une personne vraiment puisse vivre sans sexualité. On sent que ça dérange les gens quand même.
Oui, oui. Mais moi, c'est toujours, à chaque fois que j'en ai entendu parler, ce n'est pas de la part de ces personnes-là. J'en connais très peu, mais c'est toujours à la blague, en se moquant de ces personnes. Un peu comme... dans mon temps, on se moquait aussi des personnes bisexuelles. On disait, ben, elles n'ont pas pris leur décision. Puis, personne asexuelle, ben là, c'est parce qu'elle n'a pas rencontré la bonne personne. Tu comprends qu'on en entend des vertes et des pommures là-dessus?
Ben, c'est ça. On est dans une société qui est très sexualisée. Ça prend beaucoup de place dans nos vies, dans nos relations, ainsi de suite. Donc, et lui-même, Alain Héril, l'auteur de ce livre-là, s'est rendu compte que il avait peut-être pas la bonne perception de ce que c'était la sexualité. Lui, il est psychanalyste, comme je le disais, sexologue. Et dans son bureau, quand les gens arrivaient en disant « ben, je suis en panne de désir, je n'ai pas de désir », c'est toujours vu comme un problème. Donc lui, c'est toujours ben, « quel est le traumatisme qui vous est arrivé ?» Des couples arrivent et disent « on a des problèmes avec notre sexualité ». C'est ben, « comment on va régler ce problème-là pour que vous ayez une sexualité entre guillemets normale et que tout soit réglé ?» Mais là, il s'est rendu compte, en faisant des recherches, en rencontrant des gens, en replaçant la sexualité dans des contextes socio-historiques un peu, de voir que ça existe et qu'il y a des gens pour qui ce n'est pas un problème. Donc, ce n'est pas quelque chose à régler, la sexualité, vraiment. Et là, on apprend que c'est ça qu'il y a différentes sortes d'asexualité. Il y a des asexualités qui sont temporaires, il y en a qui sont permanentes. Il y a des choses que c'est la fatigue, le stress, les enfants, le manque de désir dans un couple, ça peut arriver. Il y a des raisons religieuses. Il y a des gens qui vont avoir l'absence complète de désir. Il y a des gens qui vont avoir l'absence de désir sexuel, mais qui vont quand même vouloir avoir de l'amour, de la tendresse, des relations. Et là, on voit que toutes ces dimensions-là, ça peut s'éclater de plein de façons et qu'il y a toujours toutes sortes de situations qui peuvent arriver, comme dans un couple, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait quand une personne est asexuelle, que l'autre ne l'est pas? On ne tombe pas toujours sur une autre personne qui est complètement asexuelle comme nous, par exemple, qui a les mêmes désirs, les mêmes envies. Ça devient compliqué. On parle des personnes LGBTQ aussi dans ce livre-là, des homosexuels qui ont l'impression qu'ils doivent avoir une sexualité complètement débridée parce que c'est ça qu'ils voient, c'est ça le modèle qu'on leur montre. Et là, se sentent rejetés par leur communauté parce qu'eux sont un peu moins sexuels. Vous parliez au début de l'émission du mois de l'histoire des personnes noires. Eux aussi sont confrontés souvent, les personnes noires asexuelles, à des clichés, des comportements qu'ils pensent qu'ils peuvent avoir. Donc, ça a des impacts vraiment pour eux qui sont difficiles. C'est un livre qui est basé vraiment sur beaucoup d'entrevues, beaucoup de rencontres. Il a découvert une communauté excessivement dynamique, beaucoup présente sur Internet, dans des forums. Il y a des gens qui se questionnent sur leur non-sexualité, qui apprennent à discuter de ça entre eux, qui apprennent à prendre leur place, qui montrent qu'ils existent. Donc, ça devient quelque chose de très intéressant dans ce livre-là. Vraiment, là, on fait éclater le prisme de la sexualité, puis on voit toutes les nuances que ça peut avoir. C'est intéressant. Parfois, je trouve qu'il pousse un peu loin parce que je mentionnais, tu sais, il y a des phases, il y a la sexualité permanente, non permanente, il y a toutes sortes de façons de le vivre et de le comprendre pour les personnes. Et là, on a droit à une pléiade de nouveaux mots, encore une fois. La cupio-sexualité, l'aquasexualité, les asflux, l'apothicosexualité. Mais bah, moi, je trouve que des fois, on cherche toujours à, peut-être des fois, à trop à mettre des mots sur des choses qui pourraient être plus simples. Mais bon, qui suis-je pour ostiner quelqu'un qui est psychanalyste et sexologue depuis 30 ans? C'est juste que parfois, je trouve que ça pourrait être plus simple que de toujours chercher à s'identifier dans vraiment sa petite bulle. Mais bon, ça fait réfléchir. Ça montre à quel point ça peut être diversifié. On en parle assez peu, comme je le disais en début, de toutes ces asexualités-là. Donc, c'est le fun de les comprendre et de voir à quel point ça peut se décliner de toutes sortes de façons. Un livre très accessible, c'est écrit de manière très agréable. Donc, ça nous fait voyager dans ce monde-là qu'on connaît assez peu quand même, là. Les asexualités. C'est publié chez Le Duc Société.
Donc, je suis juste, je n'étais pas certain, c'est un livre qui a été publié en France ou qui a été publié au Québec? Parce que je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas vu, oui.
L'auteur est français, mais c'est distribué aussi au Québec, donc on peut le trouver ici. Mais oui, un petit ouvrage
Oui.
sur ce sujet-là. Petite maison d'édition, mais il est disponible ici au Québec également, donc on peut le trouver là, pour les personnes que ça peut intéresser. Justement, il y a peu de littérature sur les personnes asexuelles de ce que j'ai vu, donc intéressant à glisser entre les mains de ceux que ça pourrait intéresser.
Alors, parlons de ce deuxième titre que tu nous proposes, La complexité des fjords de Victor Bégin.
Je vous amène complètement ailleurs, cette fois-ci dans le roman. Février, fait froid dehors, on a le goût de retourner en voyage bientôt, de partir en vacances. Victor Bégin, c'est son premier roman, c'est pas son premier livre. L'an dernier, je vous avais parlé des Garçons interludes, qui est une espèce de recueil de fragments de textes que j'avais bien aimé, qui était très intéressant. Il y avait une belle sensibilité. On retrouve cette sensibilité-là dans ce premier roman de Victor Bégin, qui est publié chez Tête Première. Les Garçons interludes, c'était chez Hamac, donc maison d'édition différente. On va suivre le personnage de Jude, qui décide de partir en Islande pour faire un voyage. C'est un pays qui le fascine, on le sent tout de suite en partant, là, la musique, la culture islandaise, ça l'intéresse beaucoup. Il y va seul pour une semaine. Il laisse derrière lui son ami Jacob, qui est resté à Magog. C'est son grand ami. On sent qu'il prend beaucoup de place dans sa vie. Il appelle toujours son ami tout le long, mais on sent qu'il n'y a peut-être pas aussi clair qu'on le pense entre les deux. Là, il y a quand même une certaine tension de compréhension. Mais là, on sent que Jude est prêt quand même à partir à l'aventure, vivre sa semaine avec lui, se laisser un peu au hasard des rencontres. Là, il arrive en Islande avec une certaine naïveté et assez peu de préparation, je dois dire. On ne sait pas exactement où il va coucher, qu'est-ce qu'il va faire. Il est prêt à se laisser aller au gré des rencontres. Et c'est exactement ça qu'il va faire tout le long du livre, donc tout le long de sa semaine. Il va croiser des baristas dans des cafés qui vont lui proposer d'aller ici et là, d'aller découvrir des choses. Il va faire du pouce tombé sur Alslung, qui va l'amener passer quelques jours dans l'hôtel de sa famille. Il va rencontrer là-bas son frère Asgir. On s'amuse bien sûr toujours avec la prononciation des noms islandais. Après ça, il va partir vers le nord, rencontrer d'autres personnes qui vont l'emmener voir un concert sur des champs de lave refroidis. Il va après ça repartir en auto avec une artiste performeuse qui va lui faire découvrir d'autres coins de pays. Il y a vraiment une belle sensibilité dans le livre, une belle ambiance. On se sent dans le voyage, on se sent dans cette espèce de mood quand on est en vacances où on rencontre des gens avec qui on vit des moments super intenses tout en sachant qu'on les reverra pas. Donc, on se fait des confidences, on lâche des grandes affaires et puis on sait que ces personnes-là, on les reverra pas. On vit des grands moments d'amitié, mais ça disparaît. Avec les filles, c'est beaucoup de moments d'amitié. Quand tu vas rencontrer des garçons, parfois ça va aller un petit peu plus loin. Mais sans que ce soit vraiment comme axé sur le côté aventure sans lendemain, on n'est pas vraiment dans le descriptif, on parle plus des corps. Mais c'est plus des moments de rencontre qu'il a avec ces personnes-là. Donc, ça reste intéressant comme rencontre, qu'est-ce qu'ils vivent. On ne sait pas exactement c'est quoi la quête qu'il a, Jude, en allant en Islande. On ne comprend pas trop le lien avec Jacob. On sait qu'il a besoin de bouger. On sait qu'il y a des questions peut-être en suspens. Mais là, il voyage. Il se laisse un peu aller au gré de ses rencontres. Il visite le pays. Donc, ça reste une super belle carte postale de l'Islande. On sent que Victor Bégin a un réel amour pour ce pays-là aussi, que ça l'intéresse beaucoup. Il y a énormément de descriptions de paysages, de descriptions d'ambiance. On parle beaucoup de culture, de musique. On va nommer des noms de chanteurs, des choses comme ça. Mais est-ce que le personnage de Jude va rapporter plus de souvenirs que de grandes réponses à ces questions? Ben, on ne sait pas trop. Il nous parle aussi beaucoup du diamant qu'il traîne avec lui en vacances. Son diamant, c'est ça, c'est le passage plus poétique du livre. C'est comme un peu son âme ou son cœur, on ne sait pas trop. Quelque chose qui vit à l'intérieur de lui, un diamant à polir peut-être au gré de ses rencontres. C'est le moment un peu plus poétique quand même. Mais donc, c'est ça, un moment quand même de sensibilité, de voyage. Ça nous donne le goût de voyager, de découvrir ce pays-là. Une belle sensibilité. Ce ne soit pas un roman transcendant avec une histoire incroyable, mais des beaux moments, des belles rencontres et une belle sensibilité. On a mis sa plume à Victor Végin dans ce roman-là.
Donc, je conviens, t'as aimé.
Oui, j'ai quand même aimé, c'est ça. Ça nous fait voyager, ces romans-là. Puis on retrouve nos propres souvenirs de voyage. On découvre un peu comment ça s'est passé. Il rend bien ce moment de vacances où on se lie avec des personnes. Ça, c'est le meilleur bout du livre, vraiment, où il y a des grands moments de rencontre. Et puis, on sait que ces personnes-là, on ne les reverra pas, notamment avec Asgeir, qui est le frère de la fille qui lui fait un lift. Ils vont vivre quelque chose d'un peu plus poussé en quelques jours à peine, mais c'est ça, on sent que ça va passer, puis il rend bien cette espèce de naïveté-là des rencontres qu'on fait en voyage. Donc, très intéressant, ce
Donc,
premier roman.
c'est le titre, c'est la complexité
C'est
des
la
fjords,
complicité
oui.
des fjords, oui. Parce que nous, ici au Québec, on en a juste un fjord, alors qu'en Islande, ils en ont tellement. Voilà, et c'est publié chez Tête Première.
Ben, merci beaucoup, Brian Saint-Louis, qu'on retrouve une fois par mois pour parler de littérature queer. Brian Saint-Louis, merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis on se parle la semaine
Merci.
prochaine.